rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous. Pour ce premier rendez-vous culture de l'année 2024, nous vous proposons de voyager. Nous irons au Rwanda, en Suisse, à Venise, au Mexique, aux États-Unis dans le Connecticut, en mer au large du Cap Horn, puis à Paris et enfin de retour en Italie, à Salerne. Pour l'Italie, votre guide sera Frédéric, avec deux romans, Le Grand Feu de Leonore de Recondo et Un coup de soleil de Serena Giuliano. Yann vous accompagnera au Mexique avec la série The Resort All Inclusive et à Paris avec la série Tout va bien, avec une petite excursion aux Antilles quand même dans la série. Et on s'envolera pour les États-Unis avec Aurore et la série de romans Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Et on embarquera en mer avec moi-même pour Les naufragés du vagueur de David Gran. Mais pour commencer, partons pour le Rwanda avec le roman Magnifique, le cinquième roman de Jean-Félix Delaville-Baugé. Magnifique, c'est le prénom de l'héroïne de ce superbe roman. C'est à la veille d'une opération chirurgicale importante qu'elle se confie à son mari. Enfin, elle s'exprime sur son traumatisme enfoui pendant 30 ans. Magnifique est une Tutsi qui nous raconte son parcours. Sa tendre enfance heureuse auprès de ses voisins Hutus, lesquels voisins l'ont progressivement rejetée et méprisée. Puis au lendemain de la chute de l'avion du président rwandais, les Hutus se sont ont tout mis en œuvre pour piéger les Tutsis. Ils les ont poursuivis et massacrés à la machette. Comme dit la narratrice, ils les ont littéralement coupés. Le 6 avril 1994, tous les Tutsis du village ont été appelés par l'évêque à se rassembler dans l'église. Toute l'organisation de la tuerie était en place, car il était plus commode de massacrer dans un lieu clos. Magnifique a le crâne entaillé, mais elle a réchappé miraculeusement à ce génocide, alors que toute sa famille a été éliminée. Nous suivons sa fuite, sa survie, en se cachant dans les marais et en s'enterrant dans la terre, sortant la nuit pour aller chercher de quoi se nourrir dans son ancienne maison, d'où elle aperçoit ses voisines par la fenêtre, qui porte ses propres robes. Après plusieurs mois de survie animale, elle a été retrouvée par des soldats humanitaires et exfiltrée dans un hôpital au Burundi. C'est là qu'elle est prise en main par le jeune chef de la délégation internationale de la Croix-Rouge, qui s'attache à elle. Il la veille nuit et jour, puis l'emmène avec lui en Suisse. Ils se sont mariés, ils ont construit une vie de famille avec 4 enfants. Son témoignage est terrible, bien sûr, et raconté de façon crue. Mais malgré tout, avec autant de réalisme que de délicatesse. Sa candeur est impressionnante. Elle raconte sans colère, sans haine, avec des images naïves et des mots simples. Et si simples que c'en est bouleversant. Certes, son héroïne ne s'en sort pas indemne, mais l'auteur interroge brillamment la possibilité d'une vie après l'horreur. S'il y a les cauchemars, les crises récurrentes, il y a aussi la lumière. Elle est aimée et elle aime en retour. Et on a là une très belle histoire d'amour. Et au-delà du romanesque, on a une vraie réflexion politique. L'auteur rend compte de la complicité de la situation. Il souligne que le pouvoir Hutu n'aurait pas pu organiser ce génocide sans des soutiens, des appuis. Et il n'occulte pas la responsabilité de la France, particulièrement son aveuglement, notamment avec l'opération Turquoise. En même temps, il montre qu'il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué pour accomplir un carnage. Entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été tués avec des machettes en moins de 3 mois. Avocat de formation, Jean-Félix Delaville-Baugé a un long parcours d'engagement humanitaire. L'été 94, soit juste après le génocide, il était au Rwanda pour Solidarité internationale, avant d'œuvrer au Cambodge, au Darfour, en Tchétchénie, et il est parti récemment en Irak pour Médecins sans frontières. Magnifique est un roman, mais largement nourri, évidemment, de ses expériences personnelles. La fiction lui permet de questionner notre monde. Les guerres, la barbarie, ce moment où l'être humain se change en fauve, en monstre. Comment intégrer tout ça? Il faut tenter de vivre, disait Paul Valéry, dans le cimetière marin. Et lire ce livre, qui est absolument magnifique. Maintenant, on va partir à Venise avec Frédéric.
Le grand feu, c'est celui qui consume Ilaria Tagianotte. En 1699, Ilaria Tagianotte naît dans une famille de marchands d'étoffes à Venise. La ville a perdu de sa puissance, mais il lui reste ses palais, ses nombreux théâtres, son carnaval qui dure 6 mois. C'est une période faste pour l'art et la musique, le violon en particulier. À peine âgée de quelques semaines, sa mère place la petite Ilaria à la Pietà. Cette institution publique a ouvert ses portes en 1345 pour offrir une chance de survie aux enfants abandonnés en leur épargnant infanticide ou prostitution. On y enseigne la musique au plus haut niveau et les Vénitiens se pressent au concert organisé dans l'église attenante. Cachés derrière les grilles ouvragées, les jeunes interprètes jouent et chantent des pièces composées exclusivement pour elles. Ilaria apprend le violon et devient la copiste du maestro Antonio Vivaldi. Elle se lie avec Prudenza, une fillette de son âge. Leur amitié indéfectible la renforce et lui donne une ouverture vers le monde extérieur. Le grand feu, c'est celui de l'amour qui foudroie Ilaria à l'aube de ses 15 ans, abattant les murs qui l'ont à la fois protégée et enfermée, l'éloignant des tendresses connues jusqu'alors. C'est surtout celui qui met le désir charnel à la musique et étroitement dans son cœur qu'elle les confond et s'y perd. Le mur de Venise et sa beauté sont un écrin à la quête de la jeune fille. Éprouver l'amour et s'élever par la musique comme un grand feu. Léonore de Recondo nous offre ici un récit sensuel, rythmé par la musique, le chant. On vivre avec Vivaldi et Ilaria, tout est volupté lorsque le violon s'élance. On s'exalte avec Ilaria, découvrant la vie, l'amitié, l'amour, la liberté dont elle a été privée, mais aussi les déconvenues. Les relations avec Prudenza et ses parents sont très différentes de celles d'Ilaria avec sa propre famille, ses sœurs aînées se moquant d'elle, sa mère ne cherchant pas à lui prouver qu'elle l'aime, ni lui expliquer pourquoi elle l'a confiée à la Pietà. Elle rend hommage à Venise, dont on parcourt les canaux avec Ilaria, pour aller chez son amie, ce qui permet une redécouverte à travers les yeux d'une adolescente, même si la belle cité a perdu jusqu'à sa superbe d'autrefois. Le rythme des mots et des émotions va crescendo jusqu'à l'apothéose finale comme une partition du maître. J'ai beaucoup aimé ce roman.
Eh bien, moi, je vous propose qu'avant d'écouter le coup de cœur suivant, qui est une série que Yann va nous présenter, on écoute un petit bout de la bande-annonce. Qu'est-ce que t'en dis, Yann ?
Ouais, ce serait très bien.
Grand plaisir.
Ça s'appelle « Till I Run With You » et je trouve que ça va très bien avec la série en question.
Some things to do.
Bon, les loulous, l'hiver passe. Le printemps finira par arriver et aussi cet été qui nous crame comme des abrutis. Bref, le temps passe et vous allez bientôt vous organiser des vacances. Des rêves de luxe, de domesticité en votre rencontre. Transat, loisirs vulgaires et polluants, cocktails colorés pour vous faire croire que vous n'avez pas de problème avec l'alcool, c'est seulement festif. Puis il faut que ça claque. Assez pour que ça rende folle de rage Émilienne à la machine à café qui est allée, comme d'habitude, au camping des Flots Bleus de Trifouilly-Plage, à 5 km de chez ses beaux-parents, et qui ne se remet pas d'avoir été interdite de Miss T-shirt mouillé car le jet d'eau ne pouvait changer de trajectoire pour elle seule et lui arroser les genoux pour obtenir l'effet escompté. Donc, un truc bling-bling assez débile dans un pays étranger ? Lequel ? En général, peu importe. Mais Emma, incarnée par Christine Milioti, et Noah, incarnée par William Jackson, Reed, ce fut la Riviera Maya au Mexique, pour leur anniversaire de mariage, et aussi pour essayer de rattraper un couple qui a tendance à partir un peu dans tous les sens. Ils étaient là, comme des idiots. Ils firent même une escapade de quad dans un grand chemin bien damé, mais entouré de la grande et mystérieuse forêt mexicaine. Macalamba ! Et là, ce fut le drame. Emma se planta, se fit même des égratignures et trouva un vieux portable. Ah oui, j'ai pris un coup de vieux en songeant à ce moment-là. À l'évolution des portables. D'ailleurs, il est solide. Elle parvient à transférer les données, à le rallumer, alors que les nouveaux, c'est le bazar, l'obsolescence programmée, tout ça. Puis le prix, ah non mais vraiment, je vous raconte pas. Bon, bref, Emma est intriguée. Et comme elle ne correspond pas aux clichés assez misogynes de la femme curieuse, elle décide d'enquêter sur son propriétaire, un jeune homme, qui semble drôlement bien s'entendre avec une jeune fille, belle comme tout, mais qui n'est pas sa copine. Ah ! Elle enquête et découvre qu'il a mystérieusement disparu il y a 15 ans. La fille aussi. Puis le resort où il logeait n'était pas un seul loin de celui d'Emma. Il est toujours là d'ailleurs, fermé, à l'abandon. Emma en devient obsédée. Elle veut une explication. Elle se rend compte que cogiter, c'est mieux que d'essayer de tenir sur une banane géante tirée par un bateau, manœuvrée par un grand con bronzé souriant, mais vachement exploité pour vendre du rêve à Bobonne et Bourbon. Monsieur n'est pas d'accord, mais se laisse entraîner. Ils vont de surprise en surprise en découvrant des lieux, des phénomènes et des personnages fort étranges. Cette série américaine de 2022, créée par Andy Sierra et réalisée par Ben Sinclair, distribuée en France sur Canal+, se compose de 8 épisodes qui durent environ 35 minutes chacun. L'atmosphère qui se construit peu à peu est un joyau, digne du Edgar Allan Poe. Aucune violence, pas de sang, mais une oppression. Ouh là là ! On se croirait dans une cocotte minute. Les poils se dressent sur les bras pour un rien. On en est tous émus. Vraiment, cette série régale tous ceux qui aiment le frisson, le suspense, avoir peur. Mais le vrai, vous savez, cette lame froide et émoussée d'un poignard, trop émoussée pour couper, qui caresse votre colonne vertébrale en un affleurement à peine perceptible. Puis la peinture, brrr. Ah oui mais, bah, en effet, j'en ai marre des oui mais, et je rêve de crier oui, oui, oui. Hélas, en ce moment, c'est la mode des fins bâclées, décevantes, qui se dit, mince, on a pris les spectateurs pour des gens intelligents, et on a fait des efforts, on peut se lâcher, et puis ne plus rien faire, de toute façon, on en est à la fin. Eh bien non, je m'insurge. La dernière fois que j'ai parlé de la chute de la maison Usher. Voilà une fin. Voilà une conclusion qui claque de la classe, du style. On en ressort revigoré, désorienté, séduit, dégoûté, excité, exilé, exténué, éternué, cambriolé émotionnellement. Je m'entraîne pour le Scrabble. Mais là, on se dit, j'ai tremblé, je me suis inquiété, j'ai frissonné, j'ai sursauté, je me suis fait des films. Bref, j'étais à fond dedans. Pourquoi ? Pour ça ? Non mais oh ! Arnaque ! Certains, salut, comment vas-tu ? Bien, diront que les allers-retours temporels sont lourds et désorientent. Oui et non. Ils ne désorientent pas, mais sont un peu fades pour certains. En fait, ceux qui concernent l'histoire des deux jeunes disparus. Par contre, pour ce qui est de la branche de l'hôtel et de son fort étrange propriétaire, ah là non, c'est bien fait et extra. C'est ce qui, nous, spectateurs, nous permet de mener notre enquête. Les décors, la photographie et la réalisation ne font pas mal aux yeux. Assez sympa, sans non plus être extraordinaire. La distribution est pertinente, le jeu également. Série à voir si vous voulez du soleil, de la nuit chaude, du suspense et une fin pourrie.
Bah écoute, moi je vais aller au Mexique bientôt, donc ça me dit bien, mais je préférais que la fin de mes vacances, par contre, soit bien. Pas comme la fin de la série, du coup.
Oui, j'espère aussi pour toi.
Ah ben, je vais enchaîner d'ailleurs avec le premier tome d'une saga que je viens de finir de lire qui s'appelle Inheritance Games de Jennifer Linsbarn. Alors en français on dirait jeu d'héritage si on traduisait, et ça nous raconte l'histoire de Avery. Avery, c'est une adolescente qui vit avec sa grande sœur depuis la mort de sa mère, sachant que leur père ne s'est jamais tellement soucié de leur sort. La sœur d'Avery n'est pas bien vieille non plus. Et la vie, même si elle ne manque pas d'amour, n'est pas rose tous les jours. En plus du lycée, Avery a un petit boulot pour aider à payer le loyer. Mais, il y a toujours un mais, le copain de sa sœur l'insupporte au plus haut point. Il est colérique et vil et tente par tous les moyens de semer la discorde entre elles. Bref, Avery ne nage pas dans le bonheur. Quand un jour, on la convoque dans le bureau du proviseur. En général, c'est pas bon signe, mais là, un jeune homme élégant, aux yeux gris acier, la reçoit et lui annonce qu'elle est l'heureuse héritière de la fortune d'un vieil homme fraîchement décédé, Tobias Hawthorne. Commence alors une autre vie pour elle, et pour sa sœur du coup, puisqu'elle l'embarque. Une vie à laquelle ni l'une ni l'autre ne sont préparées. Le jeune homme en question est l'un des quatre petits-fils du défunt. L'un des quatre sulfureux et pernicieux petits-fils du défunt. Il se trouve que pour accéder à l'héritage colossal qui l'attend, le vieux, comme il l'appelle, n'a mentionné qu'une condition. Avery doit vivre au moins une année sans discontinuer dans la maison Hawthorne, sans pouvoir chasser la famille qui y réside déjà, sauf cas d'extrême nécessité. Avery doit donc prendre de nouvelles habitudes et apprendre malgré elle à connaître les hôtes de la maison, hôtes qui la détestent plus ou moins puisqu'ils la prennent pour une croqueuse de diamants. Rien ne va. Le jeu, puisqu'il en est question dans le titre, jeu de l'héritage, Inheritance Game, va constituer déjà à survivre, si ce n'est une année, au moins les premières semaines, dans cette maison avec ses occupants. Et accessoirement, à trouver pourquoi le vieux Tobias Hawthorne lui a légué sa fortune à elle, alors qu'elle ne le connaissait pas. Ce qui est une énigme pour elle, est aussi un jeu d'intrigue pour les quatre petits-fils lésés. Si tantôt ils semblent vouloir s'allier avec elle, d'autres fois ils la rejettent. Un jeu dangereux pour Avery, qui pose à peine ses valises dans une vie qu'elle n'a pas choisie. Alors c'est pas du tout un roman d'horreur ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, on est dans le roman young adulte, bien comme il faut, mais il y a quand même pas mal de suspense. Et je trouve que l'autrice américaine, Jennifer Lynn Barnes, ne fait pas dans la caricature. Notre héroïne, Avery, est tout ce qu'il y a de plus humain. Ses comportements, ses réactions, ses réflexions sont d'une crédibilité sans faille. L'autrice accorde aussi une belle place aux quatre petits-fils. S'ils sont semblables par leur esprit talentueux et leur physique accompli, elle arrive sans peine à nous les faire différencier par leur ton, leur hobby ou leur démarche. Chacun d'eux prend une place à part dans le roman et constitue une pièce du puzzle qu'Avery essaie de résoudre. Et bien sûr, même si l'intrigue de base n'est pas hyper originale, une jeune fille pauvre qui hérite soudainement d'un riche milliardaire inconnu, on ne peut s'empêcher de s'identifier. On s'est tous demandé un jour, qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto ? Et on s'est tous mis à rêver le temps de quelques minutes. Et c'est exactement ce qui se passe dans la tête d'Avery. Elle pourrait revenir à son ancienne vie et oublier les quatre frères Hawthorne ainsi que tous les soucis qui vont avec. Mais elle pourrait aussi faire tellement de choses avec cet argent. Des choses cool, mais des choses utiles aussi. L'autrice respecte tout à fait le genre du young adulte qui séduira aussi les adultes grâce à la lecture fluide et entraînante. Jennifer Lynn Barnes nous fait rentrer dans ses jeux de l'héritage et devient en vrai difficile de lâcher le roman. Le tome 1 peut se lire tout seul, on y trouve les réponses qu'on cherche, même si bien sûr une porte ou deux sont laissées ouvertes pour les tomes suivants, que personnellement je ne manquerai pas de lire prochainement.
Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Partons en mer maintenant avec Les naufragés du Vaguer de David Gran. Le nom de David Gran ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sûrement les films The Lost City of Z de James Gray et plus récemment Killers of the Flower Moon de Scorsese. Ces deux films ont été adaptés de livres signés David Grann, considéré comme le maître américain de la narrative non-fiction, la littérature écrite à partir de faits avérés. Et d'ailleurs, Scorsese a déjà racheté les droits de sa dernière œuvre, celle dont je vais vous parler, pour l'adapter, et toujours avec son acteur fétiche, Leonardo DiCaprio. Les naufragés du Vagueur est un roman d'aventure maritime. Il raconte la tragique expédition d'une flotte de vaisseaux britanniques au XVIIIe siècle, en 1740 précisément, comprenant près de 1500 marins. 6 navires composaient cette flotte, dont le Vagueur, une frégate de 28 canons. Sa mission, piller un galion espagnol en Amérique du Sud. Mais la mission tourne vite au fiasco. Dès l'Atlantique, l'équipage est infecté par le typhus, puis le scorbut. Ensuite arrivent les 50e hurlants. Aucune voile du Vagueur ne résiste à la furie des éléments. Puis viennent les conflits humains, puis les mutineries, les luttes de pouvoir. Le navire fait naufrage en tentant de franchir le Cap Horn. Ceux qui ne sont pas morts noyés ou de maladie avant trouvent refuge sur une île déserte marécageuse, à l'ouest de ce qui sera plus tard appelé la Patagonie. Et dès lors, c'est la survie en terre hostile, où des groupes se forment et s'affrontent, où ils rencontrent des indigènes qu'ils traitent comme des sauvages avec leur attitude impérialiste. Les naufragés ont passé minimum 5 mois d'hiver austral sur ce bout de monde décharné, dans la famine et le froid. Les conditions matérielles, physiques et psychologiques dans lesquelles une poignée de marins a pu survivre sont sidérantes. Quelques rescapés rejoindront le Brésil quelques mois plus tard et d'autres regagneront la Grande-Bretagne, mais 2 ans plus tard. Cette histoire hors du commun, épique comme on en lit peu, pleine de rebondissements, est si incroyable qu'elle semblerait inventée. Mais non, tout est vrai. On a un équilibre très réussi entre un roman haletant qui emporte le lecteur et un récit documenté d'après les témoignages des marins. Et grâce à un colossal travail de recherche, David Grann constitue un puzzle constitué des écrits et d'articles d'époque avec plusieurs options possibles. Car en effet, les deux groupes de rescapés ont rapporté à l'amirauté des versions très différentes de ce qu'il s'est passé sur l'île. Chacun a écrit sa version des faits pour sauver sa peau, servir ses propres intérêts. D'ailleurs, certains ont même subtilisé des journaux de bord du commandant en vue déjà de corrompre la vérité, pour créer une histoire acceptable, justifier leurs actes et même passer pour des héros. C'est une guerre des récits qui se joue devant la cour martiale pour déterminer les responsables et les causes du naufrage. L'auteur interroge ainsi la notion de vérité et le pouvoir des récits, la façon dont ils peuvent manipuler, et c'est passionnant. D'autant que ce sont ces récits d'expédition que la postérité retiendra. Ils influenceront autant la littérature que l'histoire. La version retenue et officialisée est celle du pasteur Richard Walter qui officiait à bord. Mais on dispose aussi de la version de John Byron, le grand-père du poète Lord Byron. David Grann ne romance pas les événements. Mais grâce à son style, à la cadence de sa narration, à son ampleur et au suspense toujours présent, son récit a la puissance vénéneuse de la mer. Changement total d'ambiance maintenant. On va parler de la série « Tout va bien ». Et écoutons la bande-annonce.
Vous êtes en colère et angoissé. Comment réagissent vos parents ?
Mon père, il est dans ce monde.
J'ai l'impression que mort, je peux de nouveau être utile.
Ma mère...
Anne Vasseur.
Elle est gourou, ma mère.
Eh oui, être heureux, ça s'apprend.
Le pire, c'est que ça fait 35 ans que les gens achètent ses livres, l'adorent.
Pas vous ?
Non.
Je suis là pour ma fille, mais rien du tout, hein, bobo.
On va décorer la chambre de greffe pour que l'environnement soit un peu plus familier.
Tu vois la niche ?
Oui.
Tu vas le battre, hein ?
Tout va bien se passer.
Ça va bien se passer, tu sais.
Ça va bien se passer, tu vas voir.
Maman dit que tout va bien se passer, que c'est une épreuve qui va tous nous rendre plus forts.
C'est vrai ?
Vous n'avez pas de portable ? Pourquoi ?
Pour me sentir libre.
Et ça marche ?
Pas du tout.
Elle est en train de s'enfermer dans une espèce de déni.
J'ai compris.
Ça, j'ai compris.
Moi, j'aimerais bien la rencontrer, ta nièce.
T'as peur, quelquefois ?
Non, pas trop.
Comme d'habitude, tu penses qu'à ta gueule.
Mais ça va, je fais ce que je peux. Je lui achète un meuble dans chaque aéroport.
Qu'est-ce que tu peux être angoissé ?
J'angoisse tellement, et sans raison, on dirait que tu voudrais qu'un malheur arrive.
C'est un bordel, cette famille.
Ça va, sinon ?
Oh, mais... très bien, ma chérie, très bien.
Vas-y,
ça. Arrêtez de me poser la question. Tout va bien.
Tout va bien est une mini-série française de 8 épisodes créée par Camille de Castelnau et réalisée successivement par Éric Rochant, Xavier Legrand, Cathy Vernet et Audrey Estrougo. Le premier épisode fut diffusé le 15 novembre 2023 et on la trouve sur la plateforme Disney+. L'histoire est assez simple. Tout va bien. Ça parle de maladie. Tout va bien. Ah bon ? Oui, c'est une enfant, leucémie. Ah bon ? Tout va bien ? Pas tout le temps, en tout cas. C'est l'intérêt de la série. La petite fille, Rose, est atteinte d'une rare leucémie dont le seul remède est une greffe de moelle osseuse. Du coup, on a le droit à la difficulté de recevoir une greffe ? Non, tout va bien. On voit le courage incroyable de parents, des parents, de l'enfant qui les aide en étant héroïque. Non, justement, tout va bien. Bah alors, la petite fille et les étapes de sa maladie ne sont pas l'axe narratif, mais l'axe temporel de la série. Ce qui permet aux spectateurs de s'y retrouver avec les différentes ellipses narratives nécessaires au format. Ceci permet de se concentrer sur l'état et l'évolution des différents membres de la famille en tant qu'entité humaine et en tant que groupe social. On a une mère psy-développement personnel, interprétée par Nicole Garcia, qui semble se développer, mais pas ses relations avec son mari, ni avec sa fille aînée, Claire, incarnée par Virginie Efira, avec qui les rapports sont conflictuels, ou le reste de son entourage, dont sa fille cadette Marion, la mère de Rose, incarnée quant à elle par Sarah Giraudeau. Le père, incarné par Bernard Lecoq, grand taiseux qui vit mal la situation, et fait un sacré retour sur son couple, et est tenu par une grande question qui révèle toute sa sensibilité et sa fragilité qu'il ne délivre que par quelques paroles qui visent juste et un jeu d'acteur assez incroyable. Claire, elle, vit à 2000% la maladie de sa nièce et s'enferme dans une spirale égocentrique, ce qui pourrait rendre difficile son couple, puisque son compagnon doit se battre pour tenter de sauver son droit à la garde alternée de sa fille Lou. Et la mère de Rose, elle, Marion, trouve une espèce de soupape à travers une histoire qu'on n'attend pas et qui est vue d'une façon réaliste et non pas d'une vision dramatique et ou tragique. Ah ben en fait, c'est un truc d'un télo prise de tête. Non, tout va bien. Ben alors c'est con et on voit tout venir. Non, tout va bien. Alors c'est léger et profond à la fois et réaliste en évitant tous les clichés mélo, le grand cliché français. Oui, on va dire ça pour quasiment toute la série. Ah. Même B et C. Le problème, c'est la fin. La fin est le signe disneyen de la série. Tout comme le premier épisode repose sur un lapin qui expose sa situation initiale, les deux derniers reposent sur un lapin. Et on tombe sur un os. D'ailleurs, je l'admets, un os qui existe. Mais là, bon, ça fait gros. C'est attendu. Le pire, c'est l'écran noir de la fin avec la bonne phrase moralisatrice. Importante, certes, mais lourdaude sur l'importance de donner son plasma, ses plaquettes, sa moelle osseuse, que c'est anonyme, que c'est gratuit et que ça fait du bien à tout le monde. Je ne nie pas la pertinence de la chose, mais d'un point de vue artistique, c'est lourd. Un peu comme une grande partie de la variété du rap français actuel. C'est dommage car la fin m'a laissé un goût amer. On m'a pris pour quelqu'un d'intelligent, qui comprenait les personnages, sans qu'ils aient nécessairement besoin de parler. Un regard, un geste. On en a des exemples multiples dans la série et qui sont vraiment prenants, voire plus prenants que les dialogues. Et à la fin, on plie ça comme ma tante Janine qui est paraplégique, avec des bons gros sentiments meringués. Dommage. Toutefois, à part la fin, on passe un moment intéressant. Tout va bien donc. Tout va bien. Et maintenant, on passe à Frédéric avec la présentation de Un coup de soleil de Serena Giuliano.
Serena Giuliano nous entraîne au cœur de 6 foyers qui ont un point commun et honorent leur femme de ménage. Mais leur route risque de se voir chambouler. Lundi, Dottore Martino, veuf au cœur brisé. Mardi, Signora Rizzo, la doyenne à l'esprit mal tourné. Mercredi, les Ferrara, Cubeni, autoritaire. Jeudi, Signora Marino, voyante, lit dans les cartes et les pensées. Vendredi matin, signor et signora Landi, aisés, bronzés, désespérés. Vendredi après-midi, signor D'Amato, l'homme invisible. À Salerno, en Italie, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Éléonore. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la Dolce Vita. Surtout, Éléonore ne parvient pas à oublier Marco, dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, elle va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses. Et sa routine bien huilée pourrait se trouver chamboulée. Son rêve de toujours deviendra-t-il réalité ? Et si un hasard s'apprêtait à rebattre toutes les cartes ? J'ai passé une excellente soirée grâce à ce roman qui m'a emmené en Italie sur les pas d'Éléonore, une Française installée à Salerno depuis une vingtaine d'années. Séparée de son conjoint, elle élève seule ses jumeaux de 16 ans et travaille comme femme de ménage chez différentes personnes. Entrer dans ce roman, c'est comme s'enrouler dans une couverture moelleuse et se blottir dans son canapé devant un film avec à portée de main des douceurs à manger et à boire. Les relations avec son patron sont parfois drôles, parfois émouvantes, mais toujours sympathiques. Bien sûr, on pourrait déplorer que le roman soit un peu trop bienveillant, car Éléonore est une femme très intentionnée, ses enfants sont des adolescents responsables et serviables, ses amis sont fidèles, son ex-mari est un mec bien, ses patrons sont pour la plupart gentils, bref, ça semble un peu éloigné de la réalité. Mais le temps d'une soirée, ça m'a fait du bien. Tout n'est pas complètement rose dans ce paradis, car Éléonore souffre d'un chagrin d'amour, une amie de ses enfants vit un calvaire chez elle. Et certains de ses patrons sont malheureux, mais tout finit plus ou moins par s'arranger. J'ai été embarqué dans cette histoire lumineuse, et c'est exactement ce dont j'avais besoin le temps d'une soirée.
Merci beaucoup Frédéric. Merci à toute l'équipe. Et oui, on arrive déjà à la fin de notre voyage culturel. Aujourd'hui, nous vous avons présenté des livres. Alors, Magnifique de Jean-Félix de la Ville-Baugé, Le Grand Feu de Léonore de Recondo, Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, Les Naufragés du Vaguer de David Gran et Un coup de soleil de Serena Giuliano, ainsi que deux séries, The Resort All Inclusive et Tout va bien. Les prochains événements de la bibliothèque, eh ben demain, samedi 27 janvier, à partir de 15h, la bibliothèque vous propose une rencontre avec l'UTC sur l'introduction à la théorie des votes. Grâce à David Savouré, un ingénieur de recherche CNRS et enseignant à l'UTC. La conférence présentera la théorie des votes, comment choisir la personne élue à partir des votes d'électeurs. Nous verrons qu'il existe différents systèmes et que le choix du système peut changer la personne élue. Et le samedi 3 février, à partir de 17h, on a rendez-vous avec les Petits Socratiques, un café philo. C'est une discussion et débat philosophique animé par Frédéric Baumer, avec pour sujet « L'attention et la concentration sont-elles les clés du succès ?» Le samedi 10 février à 15h, une rencontre du Liban et de ses écrivains pour célébrer la littérature libanaise et son rayonnement. Le public est cordialement invité à échanger avec deux auteurs libanais. C'est un événement proposé par l'association franco-libanaise du Compiénois. Le vendredi 16 février à 20h15 aura lieu notre nouveau ciné-clep avec le film « Elle et lui » de Léo McCarré. Notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque sera le 16 février à 18h. N'hésitez pas à venir nombreux. Et pour notre prochaine émission sur Graphite, c'est le 23 février à 18h. Très bon week-end à tous.
Thank you.